Bon, tout de suite, pour commencer, je vous propose déjà de mettre un petit peu les choses en place. L'école pour tous au XXIe siècle, les enjeux. Michel Quéré, vous êtes directeur de l'évaluation de la prospective et de la performance, c'est-à-dire la DEP, du ministère de l'Éducation nationale.
Merci beaucoup. Alors, propos liminaire, moi, je ne vais pas vous parler de l'apport des neurosciences ou ni même du plan numérique qui a été présenté cet après-midi. Nous en étions un certain nombre à écouter les ministres le présenter. Mais je voulais, au fond, continuer à poser le décor, en quelque sorte, du point de vue des enseignements que nous pouvons retirer de PISA. Et poursuivre au fond l'échange qui a été amorcé dans la table ronde précédente pour rappeler quelques évidences. Et je crois qu'il faut continuer d'illustrer les propos de Christian Forestier et notamment de Nathalie Mons sur le fait que nous sommes confrontés à des phénomènes très lents où la question de la performance doit s'apprécier effectivement dans la durée. Et quand on disait tout à l'heure inquiétude qui bascule en quelque sorte au milieu des années 2000, j'aime aussi à rappeler que, au fond, ce qui caractérise la situation française et qui est une certaine forme atypique sur la scène internationale, c'est que nous sortons effectivement chaque année 17% ou 17-18% selon comment on compte, c'est-à-dire 150 000 jeunes sans diplôme de ce système éducatif, et qu'on sait année après année les conséquences que cela a en termes de taux de chômage de ces jeunes qui avoisinent les 46% si ma mémoire est bonne. Ce qui veut dire que on a dans cette bascule certainement un phénomène de surexposition qui est liée aussi à la conjoncture économique, c'est-à-dire que la situation macroéconomique que nous connaissons a fait aussi révéler quelque part l'inquiétude macro-sociale, cette fois-ci sur ce flux de jeunes qui sortent sans diplôme du système éducatif, parce qu'on sait, et leurs difficultés sur le marché du travail s'accroissent depuis le milieu des années 90. C'est-à-dire qu'on peut observer qu'il y a une certaine stabilité de cette performance relative du système éducatif, et que, au fond, et c'est mon point premier, ce phénomène est un phénomène structurel qui est resté jusqu'à présent très insensible à toutes les politiques éducatives qui se sont déployées depuis le milieu des années 90, et qui fait que, au fond, il y a un vrai défi aujourd'hui pour attaquer structurellement ce phénomène structurel. Donc ça c'est le premier point qui me semble important et qui illustre au fond les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, en tout cas auxquelles les jeunes sont confrontés, une partie des jeunes qui sortent de ce système éducatif. Alors, je voulais, à partir de cette remarque, dire, sans catastrophisme évidemment, néanmoins, qu'il faut, construire autour des résultats de PISA un certain nombre d'interrogations sur notre système éducatif. Alors, la première chose que je voulais quand même souligner, et je le dis devant Andrea Schleicher, ça a été en partie évoqué par Christian Forestier, il faut prendre PISA pour ce qu'il est, c'est-à-dire que PISA, c'est une interrogation d'une tranche d'âge, les 15 ans, mais c'est surtout une interrogation qui porte sur ce qu'on appelle une estimation de la manière dont les jeunes vont se comporter en situation authentique de la vie quotidienne. C'est-à-dire que nous sommes loin, à travers PISA, d'une évaluation réelle des programmes scolaires français. Il faut le dire, et on a d'autres instruments qui nous permettent de mesurer plus précisément le caractère atteint ou non atteint chez nos jeunes, et dans quelle mesure et dans quel pourcentage cette couverture du programme scolaire est assurée. Mais PISA nous renseigne assez peu, au fond, sur ce qui se joue dans l'école. PISA nous renseigne sur la mobilisation des connaissances et des compétences de nos jeunes, acquises à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, si je puis me permettre, et testées en situation de la vie quotidienne. Donc ça mérite quand même qu'on garde à l'esprit cette finalité de l'instrument. Il ne s'agit pas de le dénigrer, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans la critique de l'instrument, mais il faut le repositionner pour ce qu'il est il informe en partie sur l'efficacité du système éducatif, mais en partie seulement. Gardons-le à l'esprit. Alors, sur cette efficacité du système éducatif, vue à travers PISA, on a une excellente illustration du temps long et du fait que les déplacements de la performance requièrent des générations, en quelque sorte. PISA 2000, nous sommes dans la moyenne des pays de l'OCDE. PISA 2009, on reste dans la moyenne des pays de l'OCDE. Il y a quelques phénomènes marquants au-delà de cette stabilité sur une décennie de la performance qui ont en partie été rappelés par les uns et les autres déjà, je ne vais pas m'y appesantir. Mais il est clair que l'accroissement de la distribution envers les bas niveaux est important, 15 à 20%, les 33% qu'évoquait Christian Forestier, c'est une chose importante. J'y rajouterais que, et ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène international, on peut, à travers PISA, observer une performance supérieure des filles par rapport aux garçons. C'est très sensible et très net aux 15 ans. Et puis, ce qui est par contre spécifique à la France et qui est souvent pointé, vous avez pu vous le lire dans les médias lors de la parution des résultats de PISA 2009, c'est un lien assez fort ou assez marqué entre l'origine sociale des jeunes, mesurée par la catégorie socio-professionnelle des parents, et la performance scolaire atteinte. Donc on a, à travers PISA, une inquiétude, entre guillemets, sur l'équité du système éducatif, puisque nous sommes parmi les pays où il y a une corrélation importante entre la catégorie socio-professionnelle des jeunes et leur performance scolaire.
Ce que confirment les enquêtes nationales.
Ce que confirment en partie les enquêtes nationales. Et alors peut-être une nuance ici, on a lu dans les médias accroissement de l'inéquité du système éducatif français à travers PISA. C'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que ce qu'on peut mesurer, c'est que c'est une corrélation qui est stable sur la décennie. On est à nouveau confronté à des évolutions très lentes. Et je ne peux pas dire, au regard de la statistique, que nous ayons sur la décennie un accroissement de la relation entre l'origine sociale, enfin, de la relation inverse entre l'origine sociale et la performance scolaire. Il y a une grande stabilité là aussi en la matière, malheureusement, bien sûr. Alors, peut-être dire aussi deux, trois choses autour de PISA qui ne sont pas souvent relayées par les médias. La première chose, c'est de souligner l'écart de performance selon le type des élèves. Les 15 ans, ça recouvre deux populations assez marquées. Hein, c'est des jeunes qui sont au collège et des jeunes qui sont au lycée, dans une proportion qui est à peu près 40% au collège et 60% au lycée. Et quand on regarde leur performance relative à ces jeunes, on se trouve dans une situation où on a deux blocs assez distincts du point de vue de la performance scolaire. Il faut dissocier les jeunes qui sont en seconde générale et technologique ou en troisième et qui sont essentiellement à l'heure pour leurs 15 ans, quand ils sont interrogés à 15 ans. Il faut les distinguer des jeunes qui sont en troisième mais qui sont en retard en troisième ou qui sont en seconde professionnelle. Et il y a un écart important de performance entre ces deux catégories de jeunes. Donc, dit autrement, au-delà de la dispersion et de l'accroissement par les bas niveaux, ça renvoie aussi à des performances relatives au sein du système éducatif qui méritent d'être interrogées à travers cette catégorisation des élèves en particulier. Deuxième chose, la France se caractérise aussi par un pays où le taux de non-réponse de nos élèves est élevé. 7% pour les questions fermées contre 4% pour les pays de l'OCDE et 16% de nos jeunes Français pour les questions ouvertes. C'est quand même pas rien, en quelque sorte. Là, il y a une interrogation qui est prégnante et qu'on retrouve dans d'autres types d'interrogations, d'évaluations, et qui relève notamment, j'y viendrai juste en quelques mots après, et qui relève effectivement d'une interrogation sur le bien-être à l'école, sur la confiance de soi, sur la manière dont on préfère ne pas répondre plutôt que de risquer de répondre mal, etc. etc. Donc on a une relation de confiance individuelle et de confiance dans le positionnement entre l'élève et la structure école qui mérite aussi interrogation à travers ce type de résultats qui ne sont pas spécifiques à PISA à nouveau et que, comme vous l'indiquez, on le retrouve dans Pearls et on le retrouve aussi dans nos évaluations nationales. troisième chose, et j'en arrêterai là, la France a, au fond, d'un point de vue qualitatif, il y a des interrogations intéressantes qui sortent à la fois de PISA et d'autres instruments. Nous sommes un des pays où on a un pourcentage de jeunes importants qui ne trouvent pas de plaisir à lire. Or, on sait, on le mesure, qu'il y a une corrélation très nette entre le plaisir de lire et la performance scolaire. Donc, d'un point de vue qualitatif, ce PISA, comme d'autres instruments, nous révèle que, au fond, le plaisir de lire est quelque chose qui se dissipe, entre guillemets, dans notre population de jeunes. Et c'est un vrai sujet de difficulté, parce que on est en corrélation avec cette observation. On peut mesurer que l'une des raisons pour lesquelles la performance est relativement faible dans PISA, mais aussi dans PIRLS et dans d'autres évaluations nationales, c'est que nos jeunes savent à peu près bien prélever de l'information dans les textes, mais n'ont pas la capacité, ou ne l'ont pas par rapport à leurs collègues européens ou internationaux, ne sont pas en proportion aussi importante pour capturer le sens du texte et savoir l'interpréter convenablement. Donc on a là, pour moi, un lien assez explicite du point de vue de la compréhension des textes avec la notion de plaisir de lire et avec à la clé la question de l'estime de soi, de la confiance de soi et du rôle, du fait qu'on se sente bien néanmoins, malgré tout, pour un pourcentage important d'élèves à l'école. Mais néanmoins, cette problématique-là mérite, à mon sens, d'être interrogée. Et de fait, ceci m'amène à conclure en disant que PISA, c'est une interrogation à 15 ans. Interroger ce constat, Christian Forestier l'a très bien dit, les 15 ans, les difficultés des 15 ans n'arrivent pas comme cela. On sait bien qu'elles s'installent et qu'elles s'installent progressivement dans notre système éducatif dès le premier degré. PIRLS, dont on vient de publier les résultats il y a deux jours, en témoigne très clairement. On est là encore dans le registre de la stabilité moyenne de notre performance. Il ne s'est pas passé grand-chose du point de vue de la moyenne de performance de la France en une décennie. Mais on retrouve en fait une inquiétude sur les bas niveaux qui ont plutôt tendance à s'accroître à nouveau. Et surtout, il n'y a plus dans PIRLS 2011 une disparité ou une différenciation entre la performance des filles et des garçons. Mais malheureusement, ça se fait au détriment des filles, si je puis dire. C'est-à-dire que ça se fait par une baisse relative de 10 points de la performance des filles. Donc je conclurai ici en disant qu'évidemment, les difficultés que l'on mesure à 15 ans à travers PISA ou dans PIRLS en CM1 pour nos élèves, témoigne que les difficultés s'installent dès le premier degré. En décrire ou en décrypter les mécanismes, c'est quelque chose qui nous occuperait bien longtemps. Je ne vais pas rentrer dans des tentatives explicatives de ces difficultés. Peut-être qu'on le fera dans le débat. Mon propos était de poser ou de continuer à poser le constat autour de PISA d'un côté, PIRLS de l'autre. Mais il est clair qu'un certain nombre d'interrogations qui sont pointées et qui relèvent d'une inflexion de politique éducative que nous connaissons aujourd'hui, vous l'avez vous-même souligné, le plus de maîtres que de classes. Je rajouterai l'accueil des moins de 3 ans dans un certain nombre d'environnements difficiles, et en particulier dans les écoles relevant de l'éducation prioritaire, me paraissent être des ingrédients. Personne ne sait aujourd'hui, comme le disait très bien Christian, qu'est-ce que ça produira dans 10 ans. Mais ça me paraît être des ingrédients qui attaquent en tout cas le problème au bon endroit où il faut le situer, parce qu'on sait bien que les difficultés que nous mesurons à travers PISA à 15 ans sont le reflet de choses qui s'installent dès le premier degré.